bienvenue dans la deuxième et dernière partie de la Grande Table. Un mot juste, on vient d'apprendre, c'est le premier des prix littéraires qui a été annoncé aujourd'hui. Et c'est donc le journaliste et romancier Philippe Lançon qui décroche le prix Fémina pour son ouvrage Le Lambeau. Voilà, premier prix dont on vous reparlera dans cette Grande Table. Pourquoi les mots liberté et interdit ne sont-ils pas contradictoires? Dans l'institution de la liberté qui vient de paraître aux presses universitaires de France, elle s'applique à les réconcilier et à démontrer pourquoi liberté n'est pas forcément synonyme de permissivité. Professeur de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur déjà de La gestation pour autrui, fiction et réalité, paru en 2013, notre invité remet en cause la toute-puissance du consentement et pointe les limites du contrat dont beaucoup voudraient faire aujourd'hui l'alpha et l'oméga des relations individuelles. Bonjour Muriel Fab-Magnan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai envie d'un enfant, je rencontre une femme qui est prête à le porter pour moi. C'est son choix, la mère porteuse a accepté en toute connaissance de cause. Notre souhait réciproque est encadré par contrat. Où est le problème pour vous, Muriel Fab-Magnan ?
Alors, c'est amusant que vous preniez cet exemple, parce que précisément quand on parle de consentement et de liberté, on a tout de suite envie de prendre des exemples qui relèvent de l'intimité de la vie privée, et au premier rang desquels avoir un enfant. En réalité, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont exactement les mêmes schémas de pensée que l'on retrouve et qui font les mêmes ravages dans tous les domaines. C'est-à-dire que la question, quand vous la posez sur la gestation pour autrui, on a l'air d'être contre la liberté individuelle qui consiste à pouvoir faire un enfant si on y consent. Mais en réalité, la question se poserait exactement de la même façon dans tous les autres domaines aujourd'hui, c'est-à-dire notamment en droit du travail, dans la question des données personnelles. Votre question, il faudrait la poser dans ces domaines-là. Quel problème finalement de travailler dans des conditions indignes et au-delà des heures humaines de travail, si j'y consens? Quel problème de donner toutes ces données personnelles, de donner tous ces gènes, de donner tout son corps, si on y consent?
Voilà, sur la question du travail, voilà. Le débat a été, ou la discussion largement rouverte au moment du travail dominical, quand on a dit, mais si les salariés consentent à travailler le dimanche, qu'en plus ils sont un tout petit peu mieux rémunérés parce que c'est du travail un jour a priori férié, pourquoi tout va bien?
C'est exactement la même chose, je vous dis. Pour détruire le droit du travail, et on l'a détruit avec les ordonnances travail, pour détruire le droit du travail, il a suffi de revaloriser le consentement du salarié. Toute l'histoire du droit du travail avait consisté à dire que finalement, un salarié qui était en état de dépendance et qui avait besoin de travail, son consentement devait être pris avec précaution. Et en particulier, c'est la loi qui le protégeait et le consentement ne pouvait pas permettre d'obtenir des conditions de travail moins favorables que celles de la loi. Et dans le domaine de la gestation pour autrui ou dans d'autres domaines, c'est exactement le même phénomène. D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle, parce que dans les arrêts américains, parce que j'essaye de retracer la généalogie de ce retournement de la liberté, finalement. Comment on en est arrivé à prôner une liberté qui va à l'encontre de la liberté? Et les premiers arrêts dans la jurisprudence américaine qui ont été contre les premières lois sociales, c'était précisément au nom de la liberté contractuelle et du consentement. Mmh. Il y avait un arrêt très célèbre où, dans la boulangerie, on voulait augmenter, faire 90 heures de travail par semaine, et le salarié y avait consenti. Et la Cour suprême américaine dit, ben oui, c'est la liberté contractuelle, il y a consenti. Pourquoi un salarié, un boulanger, serait-il moins intelligent? Mais la question n'est pas être moins intelligent, la question c'est, a-t-on le choix? Quand on n'a pas le choix, le consentement ne vaut pas.
Mais c'est quand même toujours assez étonnant d'entendre une juriste comme vous, Muriel Fab-Magnan, remettre en question le consentement, voire le contrat, qu'on perçoit comme tout puissant aujourd'hui pour régir les relations entre individus.
Alors, d'abord, c'est vrai, merci d'avoir invité une juriste, parce que le droit, on l'entend assez peu dans les médias, ça fait peur tout de suite, donc vous êtes une femme très courageuse qui n'a pas peur d'inviter une juriste. Et précisément, je crois que l'avantage du droit, d'abord, c'est que ça vous oblige à une analyse assez précise et ancrée dans le réel et dans l'évolution de la législation à travers des dizaines et des dizaines d'années. Alors, pour repréciser votre question, je ne suis pas du tout contre le consentement. Au contraire, le consentement est absolument, dans nos sociétés démocratiques, une condition nécessaire. Donc ça, je n'en parle même pas ou en une phrase, tellement c'est une évidence. Alors évidemment, je me concentre sur le fait que ça ne peut pas être une condition suffisante. Mais on est absolument d'accord, et je le répète bien pour que ce soit clair pour les auditeurs, le consentement est une condition nécessaire. Dans tous les domaines que vous avez dit, il est évident que ce soit les matières sociétales, c'est-à-dire la filiation, que ce soit le port du voile, que ce soit les données personnelles, que ce soit tout ce que vous voulez, le consentement est bien entendu une condition nécessaire. Mais il ne peut pas être une condition suffisante. Et j'essaye d'en montrer toutes les contradictions et les écueils. Et par exemple, il ne peut pas être une condition suffisante. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toujours le choix. Donc ça ne peut pas suffire à vérifier la légitimité des actions. Et puis, on ne peut pas contrôler le consentement. Dans beaucoup de domaines, je sais pas, je prends l'exemple du voile, ça n'a aucun sens de se concentrer. Bien entendu, c'est une condition nécessaire, mais ça ne peut pas être suffisant. C'est impossible de savoir si une femme consent, même en matière sexuelle, vous le savez bien, c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est que le consentement dans une relation qui dure un certain temps? Est-ce que c'est parce qu'on voulait au début qu'on veut encore à la fin? Donc, bien entendu, ça doit être une condition nécessaire. Mais on ne peut pas contrôler par le consentement, parce que ça fait une société, en réalité, beaucoup plus intrusive. Vous ne pouvez pas contrôler l'altruisme, vous ne pouvez pas contrôler toute une série d'intentions personnelles. Et alors, il faut en plus, dans une société démocratique, ne pas remettre en cause la parole des personnes. Donc, quand une personne dit « je consens » ou « je ne consens pas », on n'est pas un psychanalyste. Le juriste n'est pas un psychanalyste, il n'est pas un moraliste, il ne va pas aller dire « ah, tu dis que tu consens, mais en réalité, tu ne consens pas ».
Alors, sur quoi il s'appuie pour parfois savoir si le consentement est réel et s'il n'est pas vicié?
Précisément par des éléments objectifs, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'établir s'il y avait une contrainte ou non, notamment quand il y a une rémunération. Ça veut dire que le consentement est motivé, quoi qu'on en dise, par l'argent. C'est pour ça que les dons d'organes, par exemple, pour être sûr que ce soit par altruisme, d'abord c'est anonyme, il y a toute une série de conditions qui font qu'on va contrôler. Donc ce sont des éléments objectifs. Donc il faut, par exemple en matière de droit du travail, j'y reviens, ou en matière de données personnelles, il faut qu'il y ait des choses qui soient interdites, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas se laisser déposséder. Parce qu'à nouveau, ma critique essentielle sur le consentement aujourd'hui, et dans l'association Consentement-Liberté, qui à mon sens est un leurre, et qui fait qu'on retourne la liberté, c'est le fait qu'on utilise le consentement pour autoriser les personnes à renoncer à leur protection, et y compris à renoncer à leur liberté. Donc le retournement, il est patent. Si vous utilisez le consentement pour autoriser les personnes à perdre leur liberté, vous voyez bien que ça n'est pas de liberté dont il s'agit, mais de retournement de la liberté, c'est-à-dire de mise à disposition des personnes. Et aujourd'hui, dans ce monde où toutes les discriminations sont guettées, la discrimination sociale, la construction d'une société où certaines personnes sont à disposition des autres, c'est la seule discrimination qui ne semble ne gêner personne. Et pour ma part, elle me gêne.
Et pour comprendre comment les professionnels du droit marchent sur des œufs en permanence avec toutes ces notions aussi, vous citez un autre arrêt, l'arrêt Tremblay, qui a été rendu en France en 2007, une affaire dont s'est saisie à son tour la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, c'était une affaire où l'URSSAF réclamait à une prostituée des arriérés de cotisation. Alors, qu'a dit le droit ou la justice sur cette question?
Alors, la question de la prostitution, comme tous les cas que vous pourriez prendre, d'ailleurs, illustre très bien toutes les apories, c'est-à-dire toutes les contradictions du critère du consentement. À nouveau, la prostitution, bien entendu, le consentement est une condition nécessaire, mais que signifie consentir pour une prostituée? Est-ce qu'elle a le choix vraiment de refuser les hommes qui ne lui plairaient pas au moment où ils se présentent? Enfin bon, j'ai pris femme-homme pour rester dans le modèle le plus courant, mais vous voyez bien qu'en réalité, elle n'a pas le choix. Et cette concentration sur le consentement fait que on ne se préoccupe plus, et ce serait pourtant le rôle du droit, ce serait le rôle de la démocratie, ce serait le rôle du législateur, de se préoccuper des politiques sociales qui permettent, et des politiques économiques et sociales, qui permettent aux personnes d'avoir véritablement le choix. Et à nouveau, dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, elle se fonde une fois de plus uniquement sur l'idée est-ce que c'est consenti ou est-ce que c'est contraint, avec l'idée que finalement, eh bien, chaque personne va devoir utiliser au mieux ses compétences propres, c'est-à-dire si vous êtes doué pour la prostitution, et vous voyez bien que ce qu'il y a d'ironie dans ma façon de le dire, mais si vous avez choisi choisi ça, ben, l'essentiel, c'est que vous en puissiez en tirer les bénéfices pour vous-même. Donc, c'est une société d'une marchandisation généralisée et où, finalement, les personnes sont renvoyées à leur propre sort. Parce que on a tendance aujourd'hui à dire que si on fait des interdits en dehors du consentement, c'est parce qu'on est paternaliste. Toute protection des personnes est considérée comme du paternalisme et donc, bien entendu, à rejeter fermement. Mais le droit a pour objectif de protéger les personnes. Et si vous voulez, si on appelle paternalisme et protection des personnes contre elles-mêmes, ce qui est en réalité une protection contre autrui et une protection contre les plus forts, une protection contre les plus puissants, on pervertit totalement le sens des mots. À nouveau, ça n'est pas une protection des personnes contre elles-mêmes, comme on le dit souvent dans toutes ces matières qui engagent le corps humain, mais une protection des personnes contre autrui, précisément. Contre ceux qui revendiquent la liberté, vous le savez bien, même dans les domaines que vous avez cités, c'est pas eux pour pouvoir se mettre à disposition, c'est pour que d'autres puissent se mettre à leur disposition. C'est la liberté des autres, la liberté des salariés, la liberté des personnes dont on prend les données personnelles pour les marchandiser, c'est leur liberté à eux qui est invoquée pour que ces personnes puissent se mettre à disposition. Ce qui à proprement parler, un retournement de la liberté. Parce que j'y insiste bien, je suis du côté des droits de l'homme, je suis du côté de la liberté des modernes. Il me semble que c'est très important que de veiller à ce que chacun puisse faire entendre sa personnalité propre, ses choix propres, les plus personnels. Mais on ne peut pas...
Sous prétexte de consentement, en arriver à essentialiser d'une certaine manière la faiblesse, ou en tout cas l'institutionnaliser.
C'est vrai, c'est ça aussi.
Oui. Cette idée. Mais si on reprend l'exemple de la légalisation de la GPA. En France, on en est encore assez loin. La loi de bioéthique de 94 l'interdit. Le comité consultatif national d'éthique qui vient de rendre son avis s'est à nouveau prononcé contre. Est-ce que vous diriez que la France est aujourd'hui, Muriel Fabre-Magnan, un pays moins libéral que les États-Unis ou le Canada ?
Non, je dirais que la France est un pays où on a du mal à discuter de ces questions-là de façon apaisée, de façon sereine. Pour ma part, en matière de gestation pour autrui, c'est pour ça que j'ai arrêté très vite d'accepter des invitations et d'en parler sans arrêt, parce que j'avais fait ce livre à une époque où le débat était à peu près serein. Aujourd'hui, c'est impossible, et on le voit bien dans ceux qui essayent de lancer le débat. On vous met des personnes qui ont vécu elles-mêmes des situations de gestation pour autrui, et là, il n'y a rien à dire. Tous les cas individuels, bien entendu, doivent être respectés. On n'a pas à juger les personnes qui, individuellement, ont recours à ça. Mais la question, si on essaye d'élever un petit peu de débat et de la poser de façon théorique, c'est essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe dans la gestation pour autrui. Et pour ma part, j'y étais arrivée quand j'ai été professeur invité aux États-Unis, et en regardant les contrats, c'était ma spécialité, le droit des contrats et de la responsabilité, et en regardant les contrats qu'on faisait conclure aux mères porteuses. Ce ne sont que des atteintes graves à des libertés fondamentales et individuelles. Par exemple, tout le dossier médical de la mère porteuse doit être donné aux personnes qui viennent commanditer l'enfant. Elle n'a plus le droit, elle n'a plus la liberté d'avorter, elle n'a plus la liberté même d'avoir des relations sexuelles. Donc, c'est une mise à disposition de personnes pauvres, quoi qu'on en dise, et de façon générale, je ne cherche même pas à analyser chaque cas particulier. Le droit doit voir la situation générale et les risques généraux. Et à nouveau, en matière de don d'organes, là aussi, il y aurait plein de personnes qui aimeraient bien donner leurs organes à des proches, qui aimeraient bien, par acte d'altruisme, on en trouverait plein des personnes qui accepteraient. Mais pourquoi le législateur ne l'autorise pas ? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y aurait aucune possibilité juridique, et il n'y a aucune possibilité juridique de contrôler les dérives, et donc on ne peut pas accepter, le droit repose sur l'égale dignité des êtres humains, on ne peut pas accepter qu'il serve à mettre une partie des personnes à la disposition d'autres. Ça...
Pardon, finissez.
Non, non, allez-y,
Non, j'ai terminé. notre invitée, Muriel Fabre-Magnan, vous signez aujourd'hui, alors vous avez quitté un tout petit peu la gestation pour autrui, même si elle revient aussi entre les lignes de ce nouvel essai qui paraît aux presses universitaires de France, l'institution de la liberté. Imaginez qu'une fois par an, des gens aient le droit, pendant une nuit, de faire ce qu'ils veulent, y compris d'agresser ou de tuer qui ils veulent. Le signal est donné comme suit, extrait d'American Nightmare, un film d'horreur américain sorti en 2013 en France, réalisé par James de Monaco avec l'acteur Ethan Hawke.
Ici votre système d'urgence intégré, vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous.
L'exemple est un peu extrême, Muriel Fabre.
Alors, je vois ce que vous inspire la lecture de mon livre.
Bon, passons sur le fait que certains ont confondu la fiction avec la réalité en lançant un appel à la purge le soir d'Halloween. En France, l'auteur du premier message, d'ailleurs, sur les réseaux, sera jugé le 28 novembre pour provocation non suivie des faits au crime ou délit. Lui a juste plaidé pour ici la grosse blague, mais ça n'a pas été perçu comme tel par les autorités. On prend cet exemple du film The Purge, American Nightmare, avec vous, Muriel Fabre-Magnan, est-ce que ça illustre d'une certaine manière, par l'excès, pourquoi l'interdit n'est pas toujours l'ennemi de la liberté ?
Alors, votre exemple me prend au dépourvu. Je vous dis, je ne m'attendais pas à ce que mon livre suscite ces associations. Mais je crois que c'est important, et on le voit dans ces questions d'appels, de choses dont on est envahi dans les médias. Il faut faire attention, et le juriste est très vigilant à ça aussi. Le droit, c'est aussi un discours. C'est pas n'importe quel type de discours, bien entendu, puisque c'est un discours normatif. Mais c'est quand même sous forme de discours. Et il faut faire attention aussi, je crois, à ce qui est donné comme discours public à entendre. Par exemple, je reviens à la prostitution, mais on pourrait le dire avec la mort aussi, je pense, et j'en dirai quelques mot tout à l'heure, ne croyez pas que je cherche à éviter la question, mais regardez sur la prostitution, ce discours, je vous dis, associant la prostitution à Catherine Deneuve dans Belle de Jour, c'est-à-dire comme si c'était consenti de façon tout à fait lucide, en connaissance de cause, en ayant les moyens de choisir autre chose, mais en décidant de faire ça. Dire que la prostitution est un travail comme un autre, c'est un discours social qui produit des ravages, par exemple chez les jeunes, dans les étudiants, vous en avait et les étudiantes qui pensent que la prostitution est un travail comme un autre, qui essayent, et bien entendu, ça n'est pas un travail comme un autre de se livrer dans son intimité la plus grande. Et sur la mort, on entend ce même type de discours, si vous voulez, sur l'euthanasie, par exemple, qui est un sujet vraiment difficile. Je prétends pas du tout avoir une opinion tranchée pour, contre. Je crois que surtout qu'on soit... tout le monde veut mourir dans la dignité. Et vous voyez les paradoxes à dire la mort consentie. On est contre la peine de mort, mais si on y consent, la mort deviendrait chose désirable. Ce qui est très important pour le juriste, c'est aussi le discours social. Et c'est ça qui est un peu irritant dans la façon dont les débats sont posés d'un point de vue médiatique. C'est que ça a des effets. Si vous dites, eh bien, on va à partir d'un certain âge ou quand les personnes sont... on peut décider de mourir, c'est la liberté. Oui. Oui, certes, c'est une forme de choix, en tout cas d'autonomie pour soi-même, mais il faut faire attention à ce que ça produit comme société où on va se débarrasser en réalité des plus faibles. Donc vous voyez le paradoxe, je refais lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, on dit qu'on est dans une société où on s'occupe des plus vulnérables, etc. Mais en réalité, d'une certaine façon, on les laisse aussi à leur propre sort, vous voyez.
Vous avez l'air de dire que cette rhétorique la dignité est assez nouvelle quand même aussi, enfin qu'elle est apparue pour combler un vide, elle est arrivée sur le devant de la scène juridique lorsque les droits de l'homme traditionnels n'ont plus suffi.
Alors ça, c'est un autre point, mais il y a un lien, vous avez raison, tout est lié. C'était l'idée de dire que traditionnellement, les droits de l'homme et les grandes déclarations des droits, y compris les plus anciennes, c'est-à-dire même la Magna Carta de 1215 et évidemment les déclarations internationales des droits de l'homme postérieures à la Seconde Guerre mondiale, elles étaient toutes fondées sur la liberté. C'était la liberté qui était au centre, parce que effectivement, à l'époque... le risque principal, c'était l'oppression, la réponse à l'oppression, la juste réponse à l'oppression, c'est la liberté. Mais quand est apparu, et notamment après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement, que l'ennemi pouvait être autre chose, que l'oppression, ça pouvait être la barbarie, La liberté ne peut pas être une réponse à la barbarie, parce que la liberté, c'est précisément la liberté de la barbarie aussi, la liberté de choisir la barbarie. Donc la liberté ne peut pas être une défense contre la barbarie, et c'est là qu'on a perçu qu'il fallait mettre en avant l'idée de dignité, parce que la dignité de la personne humaine est effectivement une réponse à la barbarie. Et ça n'est pas un choix idéologique, c'est encore moins un choix théologique, c'est réellement tous les rédacteurs des grandes déclarations internationales des droits de l'homme qui ont mis au centre l'idée de dignité de la personne humaine comme réponse aux barbaries, et ça peut être les barbaries qu'on a vues pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi une certaine forme de barbarie parfois de la technique ou du marché, et la dignité paraît comme une réponse. Mais enfin, pour ma part, je pense qu'on parle beaucoup trop de dignité. Alors vous me direz, je me contredis un petit peu en parlant dans le livre pour expliquer qu'il ne faut pas en parler, mais je pense effectivement qu'on n'aurait pas dû en faire un outil juridique, on n'aurait pas dû, enfin ou plus exactement un concept juridique comme un autre, parce que tous les droits de l'homme sont imprégnés par l'idée de dignité. Donc en réalité, dans chaque cas concret, le juriste pourrait trouver un autre fondement technique plus précis. Par exemple, l'atteinte à l'honneur des morts. Je me souviens un arrêt de la dignité où c'était le préfet Erignac. On avait pris sa photo, on avait dit que c'était contraire à la dignité de la personne humaine, mais on aurait pu prendre la protection, l'atteinte portée aux morts. Ou alors, il y a aussi traitement inhumain et dégradant. Pratiquement tous les droits de l'homme et même tous les droits de la personne sont imprégnés par l'idée de dignité.
Alors que si là, on en a fait un droit, le droit.
Exactement, exactement. Si vous remplacez tous les mots qui ont été ciselés avec l'histoire, la casuistique, par le mot dignité, c'est au fond que, en réalité, vous voulez aller plus loin dans la censure et vous donner du grain à moudre à ceux qui sont contre la dignité, parce qu'effectivement, ça devient un concept, et on le voit bien aujourd'hui, dans n'importe quel cas concret, on invoque la dignité pour faire taire tout le monde et pour dire là, ça doit être interdit, alors qu'en réalité, on le galvaude, on le banalise, et je montre dans le livre, enfin, j'espère de façon assez pédagogique, quels sont les travers si on en fait un concept juridique comme un autre. Il devient galvaudé, donc il perd complètement son efficacité juridique.
Et il perd de sa substance et de sa
il
force.
Il perd symbolique. De sa substance. On connaît l'adage, appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder.
Invité de cette grande table des idées du lundi, Muriel Faber-Magnan, juriste, professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, Essai, l'institution de la liberté au Presse universitaire de France. France Culture, il est 13h17.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Et non, ce n'est pas fini, Muriel Faber-Magnan. On est ensemble jusqu'à 13h30. Vous avez raison, il fallait que je le rappelle. On va venir à votre définition, parce que vous avez énormément travaillé là-dessus, de la liberté. C'est pas évident. Vous dites qu'on ne devrait pas se contenter de définir déjà la liberté par la négative, comme l'absence de contraintes extérieures ou cet espace où l'État n'intervient pas. Que les acceptations aujourd'hui, en droit français, vont plutôt dans le sens d'une liberté positive. Et d'ailleurs, de se rallier à cette définition, à ce sens de cette notion, ça ouvre un gouffre de complexité pour les juristes qui ne savent pas trop où elle commence, où elle s'arrête, cette liberté, et surtout comment la maîtriser. Aujourd'hui, quelle est la définition qui vous semble la plus propre de la liberté, celle qu'on devrait retenir ?
Alors, c'est vraiment le point central du livre. Effectivement, il y a plusieurs définitions de la liberté qui se sont, non pas substituées l'une à l'autre, mais succédées dans le temps. Et ça n'est que très récemment, en droit, qu'on est arrivé à la définition la plus générale et la plus ouverte de la liberté comme autonomie personnelle, c'est-à-dire comme faculté de faire tous les choix pour soi-même, ce qui est une définition presque philosophique. Et j'insistais sur cette généalogie dans le livre, parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les droits de l'homme, et on a tendance, comme sur tous les débats, on pourrait les prendre tous, dans tout débat, il y a deux camps retranchés, et on nous sommes d'être dans un camp ou dans un autre, mais pour ma part, souvent, je n'arrive pas à me mettre dans l'un ou l'autre. Et précisément, en matière de droits de l'homme, on a ceux qui défendent les droits de l'homme avec leur interprétation très individualiste, très moderne et en réalité très récente, et ceux qui dénoncent et veulent se débarrasser des droits de l'homme. En réalité, on oublie que les droits de l'homme, c'est absolument, même en disant que c'est absolument indispensable, j'ai l'impression de faire un euphémisme considérable, les droits de l'homme, c'est le le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial, c'est l'interdiction de la torture, c'est l'interdiction du travail forcé, c'est le droit à la santé, le droit à l'environnement. On ne va pas se débarrasser des droits de l'homme, ce n'est pas raisonnable. Donc dans le livre, j'essaye de montrer à quel point précis s'est effectué le dérapage. Et il s'est effectué effectivement très récemment, c'est-à-dire dans les années 2000, au tout début des années 2000, quand la Cour européenne des droits de l'homme a commencé à imposer une définition de la liberté qu'elle ne sait même pas maîtriser elle-même. Et c'est là qu'est le problème, qu'est le grave problème. Non pas les droits de l'homme en général, mais uniquement un droit de l'homme pose problème, qui est l'article 8, c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée, puisque en France, traditionnellement, le droit au respect de la vie privée, c'est le droit au respect d'une sphère d'intimité, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller prendre votre image justement sans votre consentement, que je n'ai pas le droit de publier votre correspondance sans votre consentement. Donc c'est le respect et la protection d'une sphère d'intimité privée. Dans les années, même très précisément en 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a posé un nouveau droit, qu'elle a appelé le droit à l'autonomie personnelle, qui ne figurait pas du tout dans la Convention des droits de l'homme de 1950. Dans la Convention européenne de 1950, il y avait le droit à la liberté, mais entendu comme au sens classique, c'est-à-dire un droit à la sûreté, le droit de ne pas être emprisonné ou arrêté sans une juste procédure, c'est-à-dire un droit très classique, très défensif, et au sens de le contraire de l'arrestation ou la détention. Donc, tout à coup, en 2002, alors, bien entendu, je n'en fais pas grief uniquement à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est elle-même insérée dans une évolution de la société, dans une évolution des mentalités, qui fait qu'elle-même se laisse porter par cette nouvelle définition de la liberté qui semble très attrayante, puisque c'est la liberté de faire tous les choix pour soi-même. Or, quand on est confortablement installé dans son salon et qu'on a de quoi manger et que tout va bien, c'est très bien de prôner qu'on a la liberté de faire tous les choix pour soi-même. Je signe moi-même des deux mains à un tel projet.
Sans la blâmer, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi en train de s'américaniser dans sa conception?
Ah, c'est exactement ça, parce que effectivement, vous avez raison, cette définition de l'autonomie personnelle comme liberté de faire tous les choix pour soi-même, ça vient très exactement d'une jurisprudence américaine. Je ne vais pas ennuyer vos auditeurs à la rappeler ici, mais enfin, je l'explique de façon, je crois, enfin, j'espère assez simple dans le livre. Et effectivement, cette définition droit au respect de la vie privée comme un droit un petit peu offensif, c'est-à-dire qui permet d'obtenir de l'aide de l'État pour réaliser ses choix de vie individuels, ça nous vient tout à fait de la jurisprudence américaine. Donc on peut en retracer le cheminement. Mais là où la Cour européenne des droits de l'homme va encore plus loin que la jurisprudence américaine, c'est que la jurisprudence américaine, de façon tout à fait lucide, dit, alors attention, si le droit doit aider pour des choix de vie personnels, doit m'aider à avoir des enfants, doit m'aider à réaliser mes ambitions de vie, mes projets de vie, c'est très bien. Mais ça va engager les finances publiques, les finances de l'État. Or, la Cour américaine dit les finances ne sont pas illimitées, ce n'est pas au juge de déterminer l'agenda d'utilisation des finances publiques. Alors qu'en France, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'étant pas fixée cette limite, c'est elle qui dit comment nos finances publiques doivent être utilisées, ce qui n'est tout de même pas très démocratique non plus.
Alors, quels vont être les effets de cette interprétation positive, voire extensive de la liberté? Il était lui aussi très remonté contre les droits de l'homme, beaucoup plus que vous.
Je ne suis pas remonté contre les droits de l'homme, soutiens absolument les droits de l'homme. Absolument,
justement. De l'autre camp. C'était le philosophe Jean-Claude Michéa qui était autour de la grande table récemment, à l'occasion de la parution de Le Loup dans la bergerie, son dernier ouvrage paru chez Flammarion. Pour lui, s'émanciper ne signifie pas s'émanciper pour autant du lien social lui-même. Écoutez.
Il faut s'autonomiser en tant qu'individu. C'est le but des anarchistes et de la plupart des socialistes de l'époque. Simplement, il faut comprendre que s'émanciper de tous les liens fondés sur l'oppression et la domination, ça ne veut pas dire s'émanciper du lien social lui-même. Il y a des liens qui libèrent. L'amour, l'amitié, toute cette panoplie que Proudhon a magnifiquement décrite, que les anarchistes ont souvent décrit. Et il faut savoir à un moment où le curseur va se situer pour que l'émancipation individuelle ne s'opère pas au détriment de la vie commune. Mais j'aurais tendance à dire quiconque a joué au football, et je répondrai comme Camus tout ce que je sais sur la morale et les hommes, c'est au football que je le dois, sait qu'il n'y a aucune contradiction à partir d'un certain moment, entre le collectif et la capacité de briller individuellement. C'est quand le collectif fonctionne comme un vrai collectif, tous pour un, pour tous, que chacun est mis dans les meilleures dispositions pour s'épanouir.
La liberté comme processus d'émancipation, Muriel Fabre-Magnan, ça vous le notez aussi. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer précisément aujourd'hui en France dans cet élargissement, dans cet accroissement des libertés individuelles? En quoi est-ce aussi pour vous, et comme peut-être aussi Jean-Claude Michéa, un signe de délitement du lien social?
Alors,
est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec lui?
Alors, sur ce qu'il a dit, je suis absolument d'accord avec lui. Et je trouve que l'un des très, très, très grands apports de Michéa, qui me semble très important, c'est précisément ce que j'avais dit au début de l'émission, c'est-à-dire d'avoir mis en parallèle exactement le domaine économique et social et le domaine sociétal. C'est-à-dire qu'en réalité, cette fausse liberté qu'on nous prône dans le domaine économique et social, et là les gens sont bien capables de l'avoir, dans le domaine sociétal, on ne voit pas que c'est le même leurre, c'est-à-dire que c'est la même organisation institutionnelle de la mise à disposition des faibles, des pauvres, sans être caricatural, mais par les personnes qui ont les moyens de mettre les autres à leur disposition.
Voilà, il montre un peu ce mouvement parallèle entre la dissolution lien ou du bien commun.
Il l'a montré très
face
bien.
Face à ce millefeuille de revendications individuelles.
Voilà. Et en revanche, sur la liberté individuelle, pour ma part, je suis absolument pour cet accroissement de la liberté individuelle. Je suis très contente de ne pas être née à l'époque de ma grand-mère ou même de ma mère. Je trouve que les acquis de la liberté individuelle, notamment des libertés des femmes, c'est un acquis majeur. Et précisément, mon propos, ça serait de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis me permettre de reprendre cette expression, c'est-à-dire précisément de conserver les acquis et de se débarrasser des excès. Mais il n'y a pas besoin de se débarrasser des acquis. Et c'est précisément là où l'analyse juridique... Parce que, pour tout vous dire, on est un petit peu lassé parfois, parce que souvent, quand on entend des scientifiques, ils font grief au manque de culture scientifique dans la population, ce qui fait que... Bon, etc. Mais le manque de culture juridique est aussi, il me semble, assez important. Et vous comprenez bien que sur les droits de l'homme, on voit beaucoup de personnes parler des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est une technique juridique concrète, précise. Et à nouveau, la liberté individuelle, je ne vois pas qu'on puisse regretter que nous soyons plus libres, que nous ayons plus les moyens de faire les choix de vie que nous voulons, qu'un pluralisme soit des modes de vie soient acceptés. Pour ma part, il n'y aura jamais assez de pluralisme des modes de vie acceptés. Donc je suis absolument de ce côté-là. Mais le livre consiste à dire que le discours qui est habituellement tenu par les personnes qui sont dans ce camp-là, c'est-à-dire ceux qui se disent dans le camp du progrès ou des libertés individuelles ou du pluralisme, le discours qu'ils tiennent va en réalité à l'encontre de la liberté. Et c'est pour ça, on ne va pas parler politique, je ne vais pas vous expliquer qu'à mon avis que c'est pour ça que la gauche n'arrive plus à faire des scores honorables, mais il y aurait tout à fait un lien.
On va conclure en bouclant la boucle. Si on laisse moins de place au contrat ou au consentement, est-ce que ça veut dire un retour de l'État dans les relations individuelles? Est-ce que l'État va interférer dans les relations individuelles et décider de ce qui est bon ou pas?
Alors, je reprécise, je n'ai pas dit moins de place pour le contrat et pour le consentement. Je veux beaucoup plus de place pour le contrat et le consentement, mais ce ne doit pas être le seul critère. Et ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va prendre la place. L'État doit poser le cadre. D'ailleurs, traditionnellement, on parlait de liberté publique. C'était bien l'idée d'un cadre à l'intérieur duquel les personnes peuvent se mouvoir librement dans un respect, à nouveau, du pluralisme, de leur vie privée, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est l'État qui va venir. Mais regardez aujourd'hui qui vient prendre la place en réalité de ce cadre et de cette structure qui manque, ce sont les entreprises. À qui est-ce qu'on donne maintenant la possibilité de prendre des données, de définir même, on veut que ce soit les entreprises qui nous aident à congeler les ovocytes. Vous pensez que c'est les entreprises qui vont le plus nous laisser libres de nos choix de vie et de nos choix de valeurs et du pluralisme? J'en doute fortement.
Merci beaucoup Muriel Fabre-Magnan. L'Institution de la Liberté vient de paraître aux presses universitaires de France. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Isolde Sicard avec Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, à la réalisation aujourd'hui Marie Placet avec Morgane Banan, et un grand merci aussi à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide précieuse. Passez une très belle après-midi sur France Culture.